Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Pourquoi donc un chat s'immiscerait-il dans le magazine d'archéologie de France Culture et non pas le chien, le rat ou le lapin? Parce que ce félin porte actuellement toute l'attention des chercheurs, parce que, apprivoisé, ce serait lui qui nous aurait domestiqués. Ainsi, sur le terrain, les découvertes s'enchaînent. Égypte, Asie du Sud-Ouest, aujourd'hui Chine, avec la découverte d'un nouveau et très ancien chat, le chat léopard. Jean-Denis Vigne, bonjour.
Bonjour.
Habitué du Salon Noir, directeur de recherche au CNRS, vos recherches en archéozoologie portent sur toute une gamme d'espèces. Aujourd'hui, vous signez un article dans la revue internationale PLOS ONE sur le chat du Bengale. Jean-Denis Vigne, à défaut d'être tous gris, tous les chats domestiques sont issus d'un même unique chat sauvage ?
Oui, en effet, les données de la génétique des populations montrent que tous les chats actuellement vivants qui ont été testés, c'est-à-dire un grand nombre quand même, descendent d'une sous-espèce du chat sauvage qu'on appelle savamment Felis silvestris libica, et qui est en fait le chat d'Afrique du Nord et du Proche-Orient.
Et même toutes les espèces que l'on appelle persans, siamois.
Voilà, toutes ces races qui ont été créées au 19e ou plutôt au 20e siècle, pour la plupart, descendent. Alors, il y a une petite exception. Je ne sais pas si on doit le dire tout de suite, mais allons-y, puisque la question est celle-là. Une petite exception, c'est que dans les années 60, on a croisé des chats domestiques avec un chat sauvage, le chat du Bengale, Priona ilurus, donc qui est un genre différent du Felis. Et on a créer une race qui est la race des chats du Bengale, qui est bien connue, c'est des grands chats qui sont très 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 beaux, et dont on va sans doute reparler.
En tout cas, Felis silvestris libica, ce fameux chat sauvage à l'origine, ancêtre de tous nos chats, aurait disparu de nos jours ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout. Il est encore présent en Afrique du Nord, au Proche-Orient, sans doute en régression, comme malheureusement beaucoup de petits carnivores, mais il est encore bien vivant.
En tout cas, les chats domestiques, il y en a une quantité absolument invraisemblable. C'est, je crois, l'animal le plus présent dans les foyers dans le monde.
Oui, c'est ce qu'on dit. J'ai pas compté, mais 500 millions d'individus, chats, dans les foyers et autour des foyers et dans les villes et dans chats aussi arrêts qui sont retournés un peu à la vie sauvage. Quoi.
Des chats marrons ?
Oui, voilà.
Pour reparler du chat, de ses liens avec l'homme, il nous faut probablement commencer par l'Égypte, la déesse Bastet et ses fameux chats momifiés.
Oui, bien sûr, c'est ce qui est dans l'imaginaire populaire, c'est ce que tout le monde sait, sans rien savoir même sur l'histoire du chat, c'est que en Égypte, on adorait le chat, on adorait la déesse Bastet, on faisait des momies de chat, ou des momies de demi-chat souvent, parce que ça permettait de vendre deux momies avec un seul chat. On élevait même des chats à l'entrée des sanctuaires de Bastet pour faire des momies et les vendre aux pèlerins. Et puis, Hérodote a popularisé aussi dans le monde grec et dans tout le monde occidental l'image des Égyptiens qui avaient des chats chez eux et qui respectaient, aimaient les chats comme des animaux domestiques.
Il y a bien sûr de très belles représentations en Égypte sur les parois de quelques tombes.
Bien sûr, il y en a qui sont particulièrement intéressantes, j'en citerai deux. Il y en a une première série, dirais-je, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur ce thème, où on voit des scènes de chasse dans des roselières. On voit les chasseurs, on voit les oiseaux qui sortent des roseaux. Et qui est-ce qui fait sortir les oiseaux des roseaux ? Eh bien, ce sont des chats. Probablement auxiliaires de chasse, plus ou moins volontaires. Et puis, il y a une deuxième représentation qui est beaucoup moins... Je crois qu'il y a un ou deux exemples seulement, où on voit un chat faisant face à un rongeur, peut-être un rat. Et derrière ce chat, il y a un personnage qui tient un bâton dans la position symbolique qui traduit le propriétaire d'un animal. Donc on a la description déjà de deux rôles du chat dans la société égyptienne, en dehors, bien sûr, du rôle de médiateur religieux qu'on citait en entrée.
Ça a été trouvé visiblement dans le cimetière d'Abydos. C'est daté de 1950, bien sûr, avant notre ère. On peut penser que, bien sûr, Rabon Chabon Rat, mais le rat est déjà là. Le fameux rat, le ratus ratus.
Non, le rat arrive un tout petit peu plus tard. Si je me souviens bien, c'est quelques siècles avant Jésus-Christ. Je crois que les premières données, c'est en gros 700 000 ans avant Jésus-Christ. L'Égypte est la région, je dirais, non asiatique, la plus ancienne touchée par le rat. C'est le rat noir, hein, qui est arrivé du Moyen-Orient et qui a ensuite pénétré en Europe beaucoup plus tardivement, hein, puisqu'on ne le trouve que à partir du 2e, 4e siècle avant Jésus-Christ en Méditerranée occidentale.
Il y a d'autres animaux que ce fameux chat contre tous ces rongeurs, par exemple. On a employé d'autres animaux assez fins.
Oui, sans doute. Par exemple, en Occident, avant que le chat arrive, puisqu'il arrive, il arrive très très tard finalement chez nous, hein, avec l'âge du fer, la période romaine. Avant, il y a probablement des animaux qui jouent le rôle de chasseurs de souris ou de chasseurs de commensaux, puisque les souris elles-mêmes ne sont pas là durant cette période. On peut penser à la belette, hein, qui a dû naturellement s'installer comme commensal dans les installations humaines et jouer ce rôle. Et puis plus au sud, en Afrique, probablement la mangouste, qui aurait joué ce rôle. On a parlé de la genette aussi, mais on a très peu finalement de données à ce sujet. Il est apparu que la genette, en fait, qui était représentée dans un certain nombre de représentations antiques pour l'Afrique du Nord, était plutôt une mangouste.
Jean-Denis Vigne, le chat domestique a-t-il été profondément modifié par l'homme ?
Alors, profondément, non, parce que finalement, quand on regarde son ancêtre sauvage, le fameux Felis libica, et le chat domestique, je dirais le chat de gouttière, hein, il n'y a pas une différence considérable. Alors, il y a une différence de taille. Ça, c'est sûr. Les chats domestiques sont en général plus petits que le chat sauvage, mais il y a évidemment de très grosses exceptions, puisqu'on a recréé finalement des races de très grande taille, des chats géants maintenant, hein, qui pèsent presque 10 kilos, quoi. Hein.
Pourtant, ils sont mieux nourris.
Oui, ils sont mieux nourris, mais non, en fait, la réduction de taille des premiers chats domestiques est un phénomène toujours un peu mystérieux, finalement, parce que il est plutôt lié à, je dirais, des modifications environnementales que véritablement à une question d'alimentation. Parce que je pense que les premiers chats étaient bien nourris à l'intérieur des villages, avec toutes les souris qui pullulaient déjà à l'époque.
Est-ce que son cerveau serait plus gros ?
Oui, alors, le seul critère fiable que nous pouvons utiliser, nous autres archéozoologues, pour différencier un chat domestique d'un chat sauvage, je parle évidemment de l'ancêtre sauvage du chat, hein, le Felis libica, parce qu'il y a plein d'autres espèces de petits félidés sauvages, eh bien c'est effectivement la capacité crânienne qui est sensiblement plus réduite chez les chats sauvages et chez les chats arrêts, hein, les chats marrons, eh bien on a cette capacité crânienne réduite aussi. Hein. Donc ça c'est un critère ostéologique. À côté de ça, ostéologiquement, eh bien on n'a pas grand-chose, voire rien du tout. Sur le plan des comportements, évidemment qu'on n'a pas en archéologie, mais il y a pas énormément de changements non plus finalement.
L'éthologie du chat n'a pas évolué.
Si sans doute il y a des modifications comportementales des chats domestiques, qui bien sûr un chat sauvage je ne pourrais jamais vivre en appartement. Hein, donc, alors, je ne suis pas éthologue, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des comportements des chats, mais bien sûr qu'il y a des modifications. Cela étant dit, c'est des modifications relativement minimes quand on compare aux chiens.
Justement. Dans ce cas-là, pourquoi le chien a-t-il subi tant de modifications, on va dire, du loup au chihuahua ?
Alors, le chien est un animal social, c'est-à-dire qu'il a finalement, avec l'homme, recréé une société, à partir du moment où il a été domestiqué. Une société comparable, pas identique, mais comparable à celle qu'il avait quand il était loup. Et du coup,
la meute.
Oui, la meute, mais une meute très particulière. C'est plus une famille dans laquelle le chien domestique a finalement acquis un certain nombre de comportements pour communiquer avec l'homme et pour vivre avec lui. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, une lecture de nos mimiques que les loups n'ont pas. Donc il a acquis un certain nombre de traits comportementaux. Mais il faut dire aussi que ça fait 15 000 ans, au moins, qu'il s'est habitué à l'homme et que nous sommes habitués aux chiens et que nous vivons en familiarité, comme dit très joliment François Popelin. Alors que le chat, d'abord, les félidés, les petits félidés en particulier, sont des animaux évidemment sociaux, ils ont une vie sociale, mais ils n'ont pas une vie de groupe ils sont beaucoup plus territoriaux, en particulier les mâles. Et du coup, ils n'ont pas cet instinct primaire de constituer des familles. Donc quand on entretient des relations avec un chat, eh bien c'est une relation plus individuelle qu'avec un chien qui véritablement va rentrer dans le cercle familial. Donc ça c'est extrêmement différent. Puis il y a sans doute des différences importantes d'adaptabilité, de plasticité. Hein. Le loup est un animal polymorphe, il s'est adapté à un tas de milieux, à un tas de conditions différentes.
Jean-Denis Vigne, vous avez récemment publié un article sur le changement de couleur de la robe du chien lié à sa domestication. Celle du chat n'aurait pas évolué ?
Alors celle du chat, elle a apparemment très peu évolué pendant fort longtemps. Et ça n'est qu'avec la naissance des races modernes qu'on voit apparaître tout un tas de pelages, de poils longs, de poils courts, de poils gris, etc., de taches blanches. Alors, évidemment, il a dû exister auparavant des changements de pelage. Hein, chez les chats égyptiens, on a déjà un certain nombre de patterns de coloration qui sont différents. Mais je ne crois pas que ça ait été étudié jusqu'à présent en détail, du moins du point de vue de la génétique, de la paléogénétique. Ça serait sans doute quelque chose d'intéressant à faire.
Le chat est-il réellement un animal domestique ? Rien n'est moins sûr.
Oui, alors ça dépend de votre chat, évidemment. Oui, alors bien sûr, c'est réellement un animal domestique au sens du concept d'animal domestique, puisqu'il est, comme on vient de le dire, certes peu modifié, mais modifié quand même par sa relation avec l'homme. Il vit dans les maisons, c'est véritablement un animal domestique, mais il a gardé un grand nombre de comportements de la vie sauvage. Et de ce fait, j'évoquerai ici la belle expression d'animal sauvage captif exploité qui nous vient de Juliette Clutton-Brock, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps et à qui je profite pour rendre hommage, qui a écrit des lignes merveilleuses sur l'histoire du chat et qui était une grande spécialiste du chat.
Une historienne ou archéozoologue ?
Archéozoologue, qui a travaillé au Proche-Orient, à Jéricho, par exemple. C'est un très grand personnage, oui.
Et elle a trouvé du chat ?
Oui, mais c'est assez amusant parce qu'elle avait trouvé un certain nombre de choses qu'elle n'a pas forcément bien compris au moment où elle l'a trouvé, parce qu'on n'était pas encore conscient de la prise d'importance du chat dès les tout débuts de l'agriculture au Proche-Orient. Mais elle a à Jéricho des petits carnivores, du renard surtout, mais aussi un petit peu de chat, en quantité assez importante. Et elle l'avait signalé, mais elle ne l'avait pas mis véritablement en perspective à ce moment-là. Et puis après, bien sûr, elle a tout compris et elle a tout mis en perspective durant les dernières décennies.
Je reviens sur ce qu'elle, justement, elle écrivait. « Animal sauvage captif exploité ». C'est quand même assez terrible.
Oui. Alors, « sauvage captif ». Bon, peut-être qu'en anglais, le captif n'a pas tout à fait le même sens. Exploiter, alors si vous voulez, ces mots-là, ils ont été écrits dans le contexte des années 80, où on avait encore une vision extrêmement unidirectionnelle de la domestication. C'était l'homme qui s'appropriait un animal ou un groupe d'animaux et qui l'exploitait. Il y avait l'idée que les ongulés étaient des garde-manger sur pied pour les premiers néolithiques. On a beaucoup changé cette manière de voir les choses. On envisage maintenant, comme d'ailleurs le font les éthologues, la domestication comme une interaction entre un groupe d'animaux ou un animal et un groupe d'humains. Et l'histoire même de la domestication est l'histoire d'une intensification de cette interaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'homme qui décide.
Justement, Jean-Denis Vigne, on a longtemps pensé que la domestication du chat s'était déroulée en Égypte. Pourquoi ?
Ah ben, parce que...
Le poids du texte hein.
Oui, bien sûr, le poids du texte, puis je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu dans l'imaginaire populaire, hein, le chat, l'Égypte, basse-tête, tout ça, évidemment, c'est ce que tout le monde sait. Et puis on l'a longtemps pensé parce que c'était là qu'on avait les indices les plus anciens, bien sûr. Dès le début du Moyen-Empire, maintenant on a encore des indices plus anciens, mais dès le milieu du Moyen-Empire, on a des représentations qui ne laissent aucun doute sur le fait que le chat est domestique. Et du coup, c'était la date la plus ancienne dont on disposait jusqu'il y a, je dirais, une quinzaine d'années, quoi.
Une mandibule avait été, semble-t-il, été trouvée à Chypre sur le site de Kyrotikia vers 6500 avant notre ère.
Oui, tout à fait. C'est Simon Davis qui était un grand ami de Juliette Clutton-Brock justement, qui a fait cette découverte qui malheureusement a pas eu le retentissement qu'elle aurait dû avoir. Il y a quelques auteurs qui en ont tenu compte et qui ont dit « Ah, mais attention, au Proche-Orient, il a dû se passer quelque chose, puisque sur l'île de Chypre, où il n'y a pas d'ancêtre sauvage du chat, on a introduit le chat, déjà, ça c'est quelque chose de très fort, et que ce chat vivait probablement dans le village de Kirokitia. » Donc 6500, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien que les plus anciennes traces de domestication du chat qu'on avait en Égypte.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Jean-Denis Vigne, toujours à Chypre, vous avez fouillé une exceptionnelle tombe de chat.
Oui, oui, on a eu cette chance avec Jean Guilaine de trouver en 2002 une sépulture. Alors, c'est pas véritablement une tombe de chat, c'est une sépulture humaine dans laquelle gisait ou avait été déposé, doit-on dire, un chat, mais un chat entier. C'est sur ce site de Chylorocambos où on a fait cette découverte, sur probablement 800 000 restes osseux animaux. C'est le seul cas de squelette en connexion, ou même presque de connexion. Ce qui veut dire que cet animal, on l'a déposé là, dans un contexte extrêmement particulier, mais on l'a déposé non pas comme un bout d'os, ni même comme un symbole de chat. On aurait pu mettre une peau, on aurait pu mettre des griffes, mais comme un individu chat.
Et il était intact ?
Il était intact, il n'avait pas été ouvert, on en a obtenu les traces en analysant très précisément le dépôt. Et il est donc, finalement, il faisait partie de l'univers post-mortem de l'individu qui était enterré là. Ce qui veut dire qu'il faisait partie de la vie du village. Est-ce que c'est une réplique d'une relation, je dirais, d'animal de compagnie durant la vie de cet individu, ou bien est-ce que c'est une vision symbolique de quelque chose qui n'existait pas réellement dans la vie de tous les jours? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Mais, quoi qu'il en soit, ça atteste une relation extrêmement forte entre homme et chat, entre individu homme et individu chat, dans l'au-delà, au moins, dès 7200 avant Jésus-Christ.
Le chat a été probablement sacrifié pour l'enterrement. Ne pourrait-il s'agir tout simplement d'une offrande ?
Oui, alors d'une certaine manière, ça peut être une offrande, mais c'est probablement pas une offrande alimentaire. On connaît d'autres sépultures avec des dépôts qui sont des symboles d'alimentaire. On a quelques os des pieds des moutons, on a quelque chose comme ça. Là, il s'agit pas véritablement de cela. Il s'agit pas d'un symbole. Il s'agit d'un individu. Et même si on peut le concevoir comme une offrande, c'est en tout cas un accompagnateur de l'homme dans l'au-delà.
Alors, ce qui est intéressant dans les tombes humaines, bien sûr, c'est que quand on introduit un animal domestique, il est entier, et quand on introduit un animal sauvage, en général, ce n'est qu'un élément.
Oui. Alors, bon, effectivement, en général, c'est une règle générale que François Peuplin a étayé fortement. Et je dirais qu'il a beaucoup apporté dans ce domaine, puisque finalement ce que je viens de raconter là sur le fait que l'animal soit entier associé à l'homme et que de ce fait on le considère comme un individu, c'est François Peuplin qui l'a émis il y a déjà fort longtemps et qui nous a qui a attiré notre attention sur le fait que quand il y avait un massacre de cerfs ou une patte de mouton, c'était le symbole du troupeau ou de la chasse ou du symbole ou de la masculinité, etc. Alors que quand il y avait l'animal entier, c'était l'animal, l'espèce qui était représentée.
Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que Jean-Denis Vigne, directeur de recherche au CNRS, évoque la domestication du chat suite à la découverte d'une nouvelle espèce de chat domestiqué. On peut penser que la domestication du chat s'est déroulée au Proche-Orient il y a quoi, 11 000, 10 000, 9 000 ans ?
Oui, on a trouvé, alors depuis cette sépulture dont nous parlions à l'instant, on a trouvé des os de chat antérieurs dans le même site, hein, antérieurs à cette sépulture de plus de 1000 ans, donc qui nous amenait aux alentours de 8200, 8300 avant Jésus-Christ, donc qui montrait que le chat avait été introduit sur l'île dès cette époque. Et puis tout récemment, nous avons trouvé dans le village de Klimonas, qui est le premier village agricole de Chypre, nous avons trouvé là aussi des traces de la présence du chat. Et puis des traces de souris d'ailleurs aussi, et ce village est daté pour l'instant entre 9000 et 8600 avant Jésus-Christ.
Jean-Denis Vigne, vous venez de publier avec vos confrères chinois une grande découverte, la domestication d'un chat en Chine.
Oui, alors en fait, C'est un peu plus compliqué que ça, parce que même si on parle de domestication, de processus de domestication, ça j'assume pleinement, il y a un processus de domestication qui a démarré en Chine au néolithique et qui était insoupçonné. Doit-on pour autant parler de chat domestique? C'est plus discutable. J'aurais tendance à penser que oui, nous l'avons argumenté, mais c'est une question qui reste quand même en débat, je dirais.
En tout cas, où ce chat a-t-il été trouvé? Dans la Chine? Dans le Shaanxi, c'est ça?
Alors, dans le Shaanxi, dans le Henan, hein, on a travaillé sur ces deux provinces. Bon, il se trouve que l'histoire a débuté avec la découverte d'un squelette complet de chat, encore un, et qui évidemment, quand il m'a été présenté par mes collègues chinois, m'a évoqué le chat de Chypre dont nous venons de parler. Ce squelette entier, magnifiquement conservé, vient d'un site qui s'appelle Wu Zhuangguoliang, et qui est dans le Shaanxi, et il était dans des ce qu'ils appellent les fosses à cendres. C'est des fosses qui sont datées de la fin du néolithique moyen, début du néolithique final. Donc en gros, on est aux alentours de 4000 avant Jésus-Christ. Et ces fosses, elles sont plus ou moins associées à des contextes funéraires. L'association est évidemment beaucoup moins forte que ce qu'on a observé à Chypre. Mais quand même, ce squelette entier associé à d'autres squelettes entiers de lièvres. Alors vous allez me dire, le lièvre était domestiqué aussi. Non. Mais si vous voulez, la limite qu'on fait entre sauvage et domestique, les néolithiques ne la faisaient pas, et je dirais entre guillemets encore moins en Chine, puisqu'on est dans des cultures qui sont très très différentes des nôtres. Donc déjà, ce squelette en connexion nous attirait notre regard. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à regarder ses caractéristiques ostéologiques. Moi, dès le début, je me suis dit, ça va être très facile, on va mesurer la capacité crânienne, puisqu'il est entier, ce qui est rare en archéologie, et puis on va savoir s'il est domestique ou sauvage. C'était voir les choses de manière très simpliste, parce que quand j'ai fait ça, j'ai rien trouvé de définitif, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait une superposition des données entre le chat sauvage du Proche-Orient, le Libica, le chat domestique, et puis un autre chat, dont je connaissais l'existence, mais qui était bien loin de ma sphère d'intervention à l'époque, puisque c'est un chat qui est exclusivement est-asiatique, qui est le fameux chat du Bengale, Prionailurus bengalensis.
C'est ce que l'on appelle le chat léopard?
Oui, en anglais, Leopard Cat, et puis en français, le chat du Bengale.
Alors ce chat du Bengale, il est très différent de notre chat commun?
Non, mais... il n'est pas très différent. Alors, si vous voulez, il existe un grand nombre de petits félidés en Eurasie, en Afrique, qui ont à peu près tous le même format, qui sont spécialisés à peu près tous sur la même activité qui est de manger des souris et des oiseaux, et donc qui sont morphologiquement assez semblables, parce que pour manger des souris, il faut être conformé d'une certaine manière, et il n'y a pas 36 façons de le faire. Donc la pression de sélection sur la conformation de ces animaux est très forte, et on a des ressemblances importantes entre les différents taxons. Ce chat du Bengale, il ressemble beaucoup finalement au Felis sylvestris. Il est un peu éloigné génétiquement, mais pas tellement finalement. Et puis sur le plan purement morphologique, on a bien du mal à les différencier, surtout quand on a des morceaux d'os tout cassés, comme c'est le cas en archéologie.
Le chat du Bengale vit-il toujours et où?
Oui,
Chine, mais où?
Alors le chat du Bengale, il y en a encore pas mal. Il est assez commensal, hein, il tourne autour des villages dans toute la Chine du Nord, dans les mêmes provinces, mais on le trouve sous des formes, des espèces proches insulaires au Japon, sur certains archipels de la mer de Chine, et on le retrouve beaucoup au Bengale au sens large, c'est-à-dire toute l'Asie du Sud-Est, où finalement il est représenté par des sous-espèces un petit peu différentes de celles de la Chine, qui peut-être, à mon avis, sont un peu plus éloignées, qu'on veut bien le dire, de celles de la Chine, mais qui sont classées toujours sous le nom de chat du Bengale.
Jusqu'en Afghanistan, semble-t-il, même.
Et voilà, on arrive pratiquement à la limite de l'Afghanistan, oui.
Sa robe diffère du chat domestique, avec beaucoup de taches?
Oui, elle est plus tachée, mais c'est une robe qui est camouflée, hein, comme pour le chat domestique. Les raies les taches l'emportent sur les raies, mais c'est à peu près les mêmes gammes de couleurs.
Existe-t-il d'autres petits félidés en Chine?
Oui, alors il y a toute une série de petits félidés, ce qui a d'ailleurs été notre problème, hein, parce qu'il fallait qu'on arrive à savoir quelle était l'espèce concernée. Il y a dans toute la partie occidentale de la Chine du Nord un félis très proche du félis sylvestris, qu'on appelle le félis ornata, qui est le chat sauvage d'Asie centrale. Et puis, il y a un certain nombre de chats d'autres espèces, 3 ou 4 autres espèces potentielles qui ont à peu près le même format.
Dans cette étude, vous avez bien sûr analysé 5 spécimens de chats néolithiques et chinois. Comment avez-vous fait? Par l'ADN, par la paléogénétique?
Alors non. Alors déjà, 5 spécimens, c'est pas beaucoup. On aurait bien aimé en faire plus, mais c'est pas des restes qui sont abondants dans les sites, hein, c'est assez rare. Et puis on a choisi quand même des contextes archéologiques bien caractérisés, donc que ça a éliminé un certain nombre de pièces. Mais avec 5, on y arrivait déjà bien. Alors ADN, oui, on aurait pu faire ça. Mais l'état de conservation de l'ADN dans beaucoup de ces os est mauvais. Et finalement, on s'est dit que ça allait être plus rapide et plus simple, non pas d'utiliser la morphologie traditionnelle, qui est totalement impuissante pour faire ces différenciations, mais d'utiliser la morphométrie géométrique. C'est là que l'aide de mes collègues Alouen, Evin et Thomas Cookie a été essentielle, parce que je suis un peu morphométricien, mais pas un grand spécialiste comme ils le sont tous les deux. Et donc là, on a vraiment réussi à déceler des différences morphologiques extrêmement fines entre ce chat léopard et le chat occidental.
Donc aujourd'hui, il y aurait au moins 2, voire 3, voire 5, 6 points de domestication primaire et forcément indépendante du chat dans le monde?
Alors, disons 3. Pour l'instant, 3. Alors, l'Égypte, on en a parlé, qui n'est pas le plus ancien processus.
Hein. Mais qui serait un foyer à part?
C'est pas impossible. C'est assez probable même. C'est assez probable. Et un foyer à part, mais où la domestication débute, au processus de domestication débute aux alentours du 4e, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors qu'au Proche-Orient, elle a débuté bien plus tôt, hein, mais l'agriculture a débuté bien plus tôt aussi au Proche-Orient. Donc là, en gros, on est aux alentours de 10 000, comme on l'a dit avant l'actuel, hein, donc 11 000 avant l'actuel. Hein. Et puis en Chine, alors c'est pas quand ça débute en Chine. Hein. Là, on a un petit point dans le temps et sur la carte, avec un processus qui est comparable, sans doute parallèle, dans le courant du néolithique entre 4 000 et 2500, et qui porte sur une autre espèce. Et c'est ça qui est amusant et intéressant. C'est de montrer finalement cette commensalisation d'un petit félidé qui débouche sur un processus de domestication, ben c'est pas quelque chose qui s'est passé dans un seul endroit, mais au moins dans 3.
Pourquoi tous ces chats du Proche-Orient à la Chine ont-ils été domestiqués? Probablement pour les mêmes causes?
Alors,
pourquoi... Où sont-ils rapprochés de l'homme?
Voilà. Oui, ils se sont retrouvés dans cette position d'animal domestique parce qu'ils se sont rapprochés de l'homme. Et ils se sont rapprochés de l'homme parce que il y avait quelque chose à manger, entre guillemets. Hein.
Parce qu'il y a des souris.
Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a agriculture, accumulation de déchets de l'agriculture ou de stock, il y a des rongeurs, c'est pas toujours des souris. Hein. En Chine, il n'y a pas de souris. Donc il va falloir qu'on trouve maintenant quel est le rongeur qui a pu vivre dans ces villages et attirer le chat. C'est une autre affaire, ça. Mais bon, et dès qu'il y a cette situation, beaucoup de petits carnivores, on qualifie de généraliste, hein, ou capable de se commensaliser, vont rentrer dans les villages. C'est le cas du renard aussi. On a parlé tout à l'heure de la mangouste. Bon. Donc ça a pu se produire dans de multiples endroits. Et il faut qu'il y ait un renforcement de l'homme, une décision de l'homme, pour que ça devienne véritablement une domestication, bien sûr.
Aujourd'hui, le chat domestique chinois n'est pas le chat léopard. Comment expliquez-vous cette substitution?
Ah ben, je l'explique pas. Il s'est passé quelque chose. Mais quoi et quand? Je n'en sais rien. Est-ce que le processus de domestication du chat léopard a finalement abouti à une relation extrêmement intense, comme ça a été le cas avec le chat occidental? On ne le sait pas. Il faudrait qu'on travaille un peu sur l'âge du bronze et les premières dynasties chinoises. Et puis, à quel moment le chat occidental a-t-il fait son apparition dans la vie familiale des Chinois? Les textes les plus anciens dont on dispose datent de la fin du premier millénaire de notre ère, hein, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. Et là, on sait que c'est déjà des chats occidentaux, donc entre-temps, il y a eu une substitution. Ils l'ont emporté, entre guillemets, sur le chat du Bengale, mais on ne sait pas ni comment, ni quand.
La route de la soie?
Pourquoi pas? C'est évidemment ce qui vient à l'esprit, mais vous savez, il y a sans doute beaucoup d'autres choses qui se sont passées que la route de la soie.
Jean-Denis Vigne, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Palares, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir sera en direct du Salon du Livre, évoquera la momie de Louise de Kangos.